c'est jusqu'à minuit et demi, ici sur France Musique. Ce soir, on embarque à l'improviste avec un nouveau concert capté au Carreau du Temple à Paris, présenté par Anne Montaron. Au programme, exploration entre acoustique et électrique avec le duo Violaine Gestalter au saxophone et Loris Binot au piano préparé et autres archets magnétiques, suivi du trio composé de Carole Robinson à la clarinette, Charlotte Testu à la contrebasse et Serge Tessoguet à la guitare électrique, un trio à l'écoute de la nature et de toutes les perceptions humaines. À 22h, dans les concerts de la création, Arnaud Merlin nous proposera une balade dans les œuvres de Lucia Ronchetti, car elle préside ces jours-ci le jury du prix de composition Élan, en partenariat avec l'IRCAM. Tandis qu'à 23h, on entendra la création mondiale d'Olivier Calmel par rien de moins que Anne Gastinel, Xavier Philips, Héloïse Luzzatti et Patrick Langot, une sacrée équipe. Et pour planer jusqu'au bout de la nuit, l'expérimental de François Bonnet vous propose d'entendre un grand documentaire autour de l'intonation juste. Mais ceci étant dit, c'est l'heure des actus. À 20h45, le journal de la création de Laurent Villarem, et tout de suite, En piste contemporain, avec Émilie Munera et Rodolphe Bruno-Boulmier.
France Musique, En piste contemporain, Émilie Munera, Rodolphe Bruno-Boulmier.
Bonsoir à tous et bonsoir Émilie Munera.
Bonsoir Rodolphe Bruno-Boulmier. Un disque, un classique de la contemporaine consacré à Terry Riley, et puis on commence au violon.
Thank you.
Retour sur un disque dont on a parlé dans notre En Piste quotidien, le premier album solo de la violoniste Fanny Stefanelli qui mêle pièces du XXe siècle de Satie, Ravel, Debussy ou Bartok et pages de notre temps, avec Régis Campo et son Yop que vous venez d'entendre à l'instant, mais aussi Gracienne Finzi et Mathieu Stefanelli. La petite particularité de ce disque, c'est l'un des instruments utilisés ici et réalisé par le luthier Sacrilegious Designs qui s'appelle le Bouddha. C'est un violon électrique à 5 cordes qui permet les plus étranges sonorités. Et Fanny Stefanelli l'utilise pour certaines pièces du XXe siècle, Gymnopédie de Satie ou Danse roumaine de Bartok, mais il a aussi inspiré un cycle à Mathieu Stefanelli qui s'appelle Sur la voie du Shambhala. J'ai vu que vous étiez allé voir le Shambhala.
Il y a une histoire de Bouddha.
Absolument, c'est une longue prière bouddhiste, nous dit le compositeur, un voyage intérieur qui conduit à la transcendance, le paradis sur terre, le Shambhala. C'est une sonate en duo pour violon acoustique et électrique avec pédale d'effet, looper, piano et percussion. On entend bol tibétain, gong ou temple blocks. Et l'œuvre se compose de 5 mouvements reliés par des méditations. On va écouter 2 pièces, Perdues dans la brume et le mandala de Kalachakra.
Thank you.
Deux mouvements de l'œuvre de Mathieu Stefanelli sur la voie du Shambhala avec Fanny Stefanelli au violon et Mathieu Stefanelli au piano et aux percussions aussi, d'ailleurs, en couple. Puisque vous me demandiez, Rodolphe, vous avez envie sur le disque et dans la vie. Et c'est donc un opus qui s'appelle Esprit Folk. On vous dit tout, hein, ce soir.
Oui, c'est des confidences du dimanche soir.
Absolument, c'est ça. On a l'impression qu'on est seul dans l'intimité, donc on vous dit encore plus de choses. Et donc, vous pouvez écouter les parties 20e siècle dans notre En Piste quotidien, nos En Piste de la semaine dernière.
Les classiques de la contemporaine, Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier.
Et c'est un compositeur que j'aime beaucoup et qui méritait sa chronique dans ses classiques, c'est Terry Riley, pape de la musique américaine indépendante, 89 ans. Pour vous dire la vérité, je me suis demandé s'il était toujours vivant.
Ah mais alors, j'aurais pas pensé, je dois vous dire aussi.
89 ans et une musique aussi originale que sa personnalité, une musique envoûtante qui doit beaucoup au raga indien. Vous voyez, on prolonge bien finalement aussi un peu votre univers. Une musique qui a changé d'esthétique au fil des années, qui a pris des chemins différents. Et à chaque changement de destination esthétique, il y a eu le quatuor à cordes comme un acte fondateur et il y a eu un compagnonnage très important avec le Kronos Quartet. Et qui ont enregistré tous les quatuors à cordes de Terry Riley. Et il y en a un que je trouve très touchant, qui est le Requiem pour Adam, puisque vous savez peut-être que le premier violon à l'époque, Johann Harrington, du quatuor Kronos, a perdu son fils, Adam, âgé de 16 ans, qui est mort d'ailleurs lors d'une randonnée, d'une insuffisance cardiaque. Et Terry Riley, qui était très proche des membres de ce quatuor, a écrit un Requiem pour quatuor à cordes. Et je trouve que ça donne une des, peut-être des œuvres les plus émouvantes de ce compositeur, ce Requiem pour quatuor à cordes, dédié évidemment au Kronos Quartet et qui a été enregistré. Et en plus, le disque est très beau puisqu'on parle ici de disque de légende. Il faut aussi voir cette pochette de disque avec une feuille morte comme ça, juste sur la pochette. Il y a quelque chose à la fois de très léger et de très automnal. Et voici donc cette musique, le premier mouvement qui est une sorte de lutte, de recherche de l'ascension qui s'élève à chaque mouvement du quatuor Kronos. Thank you.
Thank you.
et Requiem pour Adam. C'est la musique de Terry Riley, le premier mouvement ici par le Kronos Quartet. Et c'est notre disque de légende.
Le Music Collegium Winter Tour de Roberto González Monra sera un disque sur lequel on trouve la 40e symphonie de Mozart. Bon, ça, c'est pas vraiment une œuvre qui est pour cette émission.
Non, mais vous l'avez diffusée dans notre En Piste quotidien.
Absolument, non, je ne l'ai pas encore diffusée, la semaine prochaine justement. Et il y a aussi une œuvre écrite en contrepoint de cette symphonie qui s'appelle Quetzalcoatl, de la compositrice mexicaine née en 1984, Diana Circe. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé...
On ne sait pas ce que ça veut dire non plus.
Alors si, ça je sais ce que ça veut dire, je vais vous expliquer tout de suite. Alors pour la musicienne, la 41e symphonie est une profonde exploration de la souffrance, de la passion et de l'humanité. C'est cette même souffrance, dit-elle, qui est au centre de son œuvre, la souffrance mais aussi la transformation intérieure qui l'accompagne. Et donc cette œuvre, Quetzalcoatl, du nom d'un dieu qui apparaît sous la forme d'un serpent à plumes et qui symbolise la nature, le pouvoir, la dualité entre l'obscurité et la lumière et la libération. Et Diana Circe nous dit qu'elle a écrit cette pièce comme un hommage émotionnel à sa mère, à sa culture et au pouvoir de transformation qui nous conduit à une prise de conscience de la solidarité universelle. Cette œuvre, conclut-elle, est traversée par l'amour, la douleur, la passion et la liberté.
Thank you.
Quetzalcoatl, c'est la musique de Diana Circé par le Musicollegium Winterthur dirigé par Roberto González Monra. C'est donc une commande de cet orchestre qui enregistre les dernières symphonies de Mozart et à chaque fois donc commande une pièce à un compositeur de notre temps.
Le disque contemporain de la semaine, Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier.
Et voilà un compositeur français pour le moins discret, Jean-Pascal Chaigne. Est-ce que vous connaissez, Émilie ?
Non.
Je vous avoue que moi, je suis passé un petit peu à côté, alors que c'était un compositeur français né en 1917. Et merci au Quatuor Bella de nous faire découvrir son univers. Je crois que c'est sa première monographie. Univers de l'œuvre pour cordes. D'ailleurs, le petit mouvement qu'on vient d'écouter a été composé pendant ses études au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Et on nous dit que sa musique est imprégnée de poésie, ça c'est vrai, et qu'elle est marquée par l'influence des maîtres du 20e et 21e siècle. Et c'est vrai aussi, on pense particulièrement à l'œuvre de Brian Ferneroux en entendant ici cette musique qui est assez légère, qui a l'air aussi très savante.
Mais il a quel âge, Jean-Pascal Chaigne ?
Il est né en 1977.
D'accord, ça fait 48 ans.
Voilà.
C'est jeune
encore. Vous comptez bien. Bah, en tout cas, pour un compositeur, on va dire que oui, et on devrait le connaître. Honte à nous, finalement, de ne pas le connaître plus. Et les ambiances de ce disque sont très belles, puisqu'on passe de choses assez graves à des choses beaucoup plus légères. Et je vous disais, donc, la poésie qui apparaît toujours, et d'ailleurs une œuvre pour voix et quatuor à cordes. Il y a de belles œuvres pour ce répertoire, les œuvres vocales avec quatuor à cordes. Il y avait eu une pièce, tout à l'heure vous parlez de Graciane Finzi, elle avait écrit aussi une pièce pour quatuor à cordes et voix. Et ici la pièce s'appelle « Dans la ligne des paupières » et c'est sur un poème d'Anne-Marie Albiac. Dans la ligne des paupières, c'est la musique de Jean-Pascal Chaigne et c'est le Quatuor Bella, dernier disque de cette formation qui fait tant pour la musique
absolument.
De notre temps.
Là, vous nous avez passé deux quatuors à cordes avec le Kronos Quartet tout
alors,
à l'heure, qui sont
vrai,
de grands défenseurs de la musique d'aujourd'hui.
Qui resteront l'un et l'autre dans l'histoire pour avoir fait beaucoup de créations.
Merci à Céline Parfenoff qui réalise cette émission avec ce soir José Bernays et Élise Dubost.
Et tout de suite, c'est le journal de la création avec Laurent Villarem. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Rodolphe, bonsoir Émilie.
Le journal de la création, Laurent Villarem.
Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous parlons de musique et de peinture avec des compositeurs qui peignent eux-mêmes ou qui s'inspirent de grands artistes visuels. Hector Parra, bonsoir.
Bonsoir, Laurent.
Vous présentez le 26 juin deux grandes pièces à la Philharmonie dans le cadre du festival Manifeste de l'IRCAM, l'étoile matinale pour quatre instruments et un grand concerto pour trompette par Clément Saunier et l'ensemble intercontemporain dirigé par Pierre Bleuze. Les deux œuvres sont inspirées du peintre catalan comme vous, Joan Miró. Hector Parra, qu'est-ce qui vous inspire autant chez Miró?
Oui, Miró, c'est un artiste mondialement connu. Qui a beaucoup influencé tout le XXe siècle, mais pour les Catalans, c'est un peu au-delà, c'est comme une sorte de Socrate, de figure mythique, parce que, en tout cas, ma génération, elle est née, Camilo était déjà une sorte de dieu en Catalogne, de l'art, et un personnage presque mythologique, non? Il est décédé, j'avais 7 ans, je me souviens même d'être allé aux funérailles. Je sais pas, c'est quelqu'un de très aimé parce que il a résisté avec son art la dictature fasciste, non? Il a développé toute sa vie un art complètement renouvelé jour après jour et ça donnait une sorte d'espoir, non? Un être humain très humble, très, très génial en même temps, qui reste dans nos cœurs, non?
Hector Parra, votre musique est aussi violente que lyrique. On écoute un court extrait de votre Inkscape par l'ensemble intercontemporain. Nous avons entendu un extrait d'Inkscape et pourtant Triptyque bleu d'après Miro, qui sera diffusé à la rentrée sur France Musique, s'annonce comme votre œuvre la plus dépouillée. Hector, vous vous apaisez ?
Oui, la Triptyque bleu, je l'avais annoncé comme une œuvre dépouillée, sans doute inspirée par le Triptyque de Joan Miró, où les bleus prennent des zones immenses avec de tuilage, de variations de coups de pinceau, mais pas vraiment de variations structurelles. Mais finalement, je l'ai développé, c'est 30 minutes, c'est un concerto pour trompette, ensemble électronique. Et je sais pas si ça va être la plus dépouillée, en tout cas, j'ai passé des heures et des heures devant les triptyques bleus. J'ai senti que c'était en fait la vie même que Miro exprimé en ces triptyques, le premier, la vie amniotique, après c'est la vie mûre, c'est un jardin zen, sec, avec ses pierres aussi, ses cailloux, mais aussi très humain. Et après, le dernier, c'est avant la mort, jusque la petite tache rouge s'éteint à la fin de la ligne de vie, non? Mais c'est un grand mystère, un seul caillou noir reste. Et il y a des zones de bleu immenses là. Voilà, c'est une sorte de vie complète exprimée à travers la couleur, à travers les masses, les bleus, ces couleurs des rêves de Miro, non ? Et la trompette, c'est l'être d'une certaine façon, et l'orchestre, en parlant électronique, c'est le cadre où l'être développe sa vie. Voilà, je ne sais pas, ce sont des impressions de compositeur. Après, chacun va le sentir de sa façon, c'est difficile de prévoir.
Une dernière question, Hector Parra. Nous allons parler de Cézanne avec le prochain compositeur. Mais vous aussi, dans vos Lumières abyssales de 2006, vous inspirez d'un tableau de Cézanne. Comment le peintre provençal vous a-t-il inspiré ?
Oui, pour Cézanne, j'ai une admiration immense, sans doute. Les derniers Cézanne, surtout les Cézanne presque abstraits, de dernière montagne sans victoire, par exemple. Pourquoi ? Parce que Cézanne scanne la réalité d'une façon évidemment poétique, mais surtout, il l'analyse d'une façon spectrale. Il réfracte la lumière sur l'espace physique. Et voilà, j'aime beaucoup cet aspect presque abstrait de vibratoire. Non, ma musique, je l'ai un peu développé dans un sens de vibration, plus que des notes ou de rythmes concrets, des éléments discrets. J'aime bien la sentir, la pensée, comme des énergies, comme des vibrations. C'est pour ça que toutes les transformations de l'écriture orchestrale, avec des stridents aux cordes, avec des glissandos d'harmonie qui s'arrêtent presque jamais, mais qui sont pas simples, sont pas des figures, en fait, sont des états de l'énergie, non, des états de la matière sonore. Et ça, c'est très cézannien, je trouve.
Merci beaucoup, Hector Parra.
Merci beaucoup, Laurent.
Création de Triptyque bleu d'Hector Parra le 26 juin à la Philharmonie de Paris. Nous évoquons à présent un autre compositeur qui s'inspire de Cézanne, mais écoutons tout d'abord un court extrait de sa ballade pour violon et orchestre qui vient d'être créée dans notre maison de la radio. Bonsoir Éric Tanguy.
Bonsoir Laurent Villarène.
Vous avez une actualité très chargée en ce mois de juin. Nous venons d'entendre un court extrait de votre ballade par Renaud Capuçon et le Philharmonique de Radio France, dirigé par Daniel Harding. Et ce jeudi 19, vous présentez une œuvre intitulée « Concert pour orchestre » avec l'Orchestre National de France, dirigé par Simone Young. Je précise que le concert sera également diffusé en direct sur France Musique. Éric Tanguy, il ne s'agit pas d'un concerto, mais d'un concert pour orchestre.
Oui, à l'origine, l'idée c'était de faire un concerto, mais en écrivant la pièce, mon projet a évolué. Et en fait, je me suis rappelé aussi des années d'enfance pendant lesquelles j'écoutais les concerts de Rameau, et puis plus tard Poulenc, et puis bien sûr Messiaen, qui ont tous écrit des concerts, alors dans des formations différentes bien sûr. Et puis bien sûr le concert de chaussons, j'étais violoniste, concert de chaussons pour violon et ensemble.
Mais le concert de chaussons est une œuvre de musique de chambre.
Oui, c'est ça, c'est violon solo, piano et quatuor à cordes. Là, il s'agit en effet d'une grande partition symphonique, dans le sens où on a tout l'orchestre et que la durée est assez développée, une vingtaine de minutes.
Éric Tanguy, au terme de votre résidence au Conservatoire d'Aix-en-Provence, vous proposez le 28 juin une création avec l'orchestre du Conservatoire, dont Michel Durand-Mabir est le directeur, et la pièce s'appelle « À Cézanne ». Comment vous inspirez-vous de l'univers du peintre aixois ?
Alors, il se trouve que cette année à Aix-en-Provence, il y a une grande célébration Cézanne. De nombreuses toiles du monde entier vont être exposées. Et c'est un événement qui est organisé par la ville d'Aix et le musée Granet que dirige Bruno Elie. Donc, il y avait une sorte de désir, aussi bien du conservatoire que du musée que de la ville, d'organiser aussi un événement musical qui rende hommage à Cézanne.
Est-ce que vous avez écrit une musique très colorée ?
Alors, j'étais très inspiré par le caractère de l'homme, un personnage à la fois sensible mais difficile, avec un caractère particulier, pas mondain, pas courtisan, un espèce d'être solitaire mais qui avait des amis évidemment et qui surtout était très très obsédé par son travail et sa créativité et sa façon de transposer la nature et les couleurs dans son œuvre, mais de manière complètement révolutionnaire.
C'est un autoportrait que vous faites également ?
Je ne me permettrai pas de me poser en révolutionnaire. Ou en, voilà. Non, c'est un hommage. J'ai voulu rendre hommage, d'autant que moi, j'aurais aimé être peintre quand j'étais jeune et que c'est la musique qui s'est imposée, mais j'ai toujours une très grande sensibilité pour les arts plastiques et je regarde le travail des contemporains, des contemporaines avec une joie immense.
Merci beaucoup, Éric Tanguy.
Merci à vous, à bientôt.
On se quitte avec l'une de vos pièces les plus jouées, Matka, parue en disque sur le label finlandais Ondine. Création et diffusion en direct sur France Musique du concert pour orchestre d'Éric Tanguy le 19 juin. Création d'À Cézanne le 28 juin par l'orchestre du Conservatoire sur la place des Prêcheurs d'Aix-en-Provence. Nous poursuivons avec un autre compositeur qui est par ailleurs peintre, c'est Philippe Scholler. Bonsoir Philippe Scholler.
Bonsoir.
Alors on vous connaît comme compositeur, mais vous êtes également peintre. Comment s'articulent vos deux pratiques ?
Très harmonieusement. Il faut avoir le temps pour faire l'un et l'autre. C'est une activité assez complémentaire avec la couleur, la forme et le mouvement de la musique dans l'écriture.
Est-ce que vos toiles ressemblent à votre musique ?
Alors ça, je suis peut-être sans doute le moins à même d'en parler.
Alors mais nous parlons pour le 28 juin, car vous organisez pour la troisième fois un grand banquet chez vous, n'est-ce pas ? Je précise que ce chez vous est à Cussy-les-Forges dans l'Yonne.
Voilà, avec ma compagne Véronique Léger, nous organisons depuis 3 ans, c'est la 3e édition, un petit festival qu'on appelle le banquet d'une haute densité. L'année dernière, nous avions un concert avec 16 compositeurs, dont 8 vivants, un concert de 3h30. Et ensuite, les agapes et puis aussi l'exposition de la peinture. Cette année, c'est une Farnaz Morad Desifar qui est à l'honneur, une joueuse extraordinaire, une compositrice d'ailleurs qui part à la Villa Médicis, compositrice de Santour, cet instrument iranien magnifique.
Et donc, on entend de la musique et on y mange également, n'est-ce pas ?
Voilà, on fait un concert avec présentation succincte, rapide, efficace de chaque œuvre. Sur, écoutez, ça va de Maramarais à 2025. Cette année, le thème est... Il y a 3 ans, puisqu'il faut une thématique, il faut une ligne rouge, c'était l'invention d'un pas d'âge. L'année dernière, c'était l'arbre sans racine meurt. Enfin, sans racine, j'entends, aucune racine meurt. Le futur est dans la tradition, dans la mémoire. Et cette année, c'est la musique comme voyage immobile, puisqu'on va balayer des époques et des contrées très différentes. Et en effet, après, on organise un grand banquet avec une grande nourriture.
Merci beaucoup, Philippe Scholler.
C'est moi qui vous remercie.
Troisième édition du banquet de Philippe Scholler, le 28 juin, à Cussy-les-Forges dans l'Yonne. On termine ce journal par un dernier compositeur inspiré par les arts visuels. C'est l'Américain Alex Minchek qui offre dans Images of Duration, présenté le lundi 23 juin à l'IRCAM dans le cadre du Festival Manifest, une œuvre pour piano et percussion d'après les grands aplats monochromes d'Ellsworth Kelly. Ici, nous entendons le vermillon devenir cobalt par le groupe Yarn Wire. Création française de Images of Duration d'Alex Minchek, le lundi 23 juin, à l'IRCAM. Et on retrouve Anon Taron pour À l'improviste.